Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Traité Choulin, page 96, Daf Tzadik Vav. Bonne écoute et bon limoud.
Velo me'adrinan betviut ena. Mais en revanche, si quelqu'un vient nous dire je reconnais cet objet de façon générale, j'ai tviut ein dessus, on ne lui restituera pas cet objet pour autant. Sauf s'il s'agit d'un tsurba merabonon, un sage, dont on sait par ailleurs qu'il est extrêmement scrupuleux dans l'ensemble de ses actes et de ses paroles. Ashta desham itenu lehaneshmatata amina tviutena adifa. Maintenant, continue Rava, que j'ai entendu tous les enseignements que l'on a rapportés à la fin du daf précédent et dans lesquels tous les chachamim qui avaient égaré soit des morceaux de viande, soit une pelote de fil bleu azur, bien que n'ayant pas de signe distinctif, on put cependant les utiliser, car ils avaient tviut ein, une reconnaissance globale de ces objets. Suite à cela, Rava dit amina tviut ena adifa. J'ai dit que la tviut ein, la reconnaissance globale, est un meilleur moyen que ce que je ne le pensais, et c'est équivalent à donner des signes distinctifs. Tosfot demande. Rava dit qu'au départ, il pensait que les simanim était une preuve de propriété meilleure que la tviut ein, car on peut restituer un objet qu'on a trouvé lorsqu'on nous donne des simanim, mais pas lorsque le prétendu propriétaire déclare avoir tviut ein sur cet objet. Or, cela n'est pas une preuve qu'il s'agit d'une meilleure preuve de propriété. En effet, lorsqu'on est sûr que le prétendu propriétaire ne ment pas, un tel mitracham, on restitue l'objet, même s'il n'a que tviut ein sur cet objet, c'est-à-dire même s'il n'a qu'une reconnaissance générale de cet objet. Et le fait que, dans le cas d'un homme du commun, on ne restitue l'objet que s'il donne des signes distinctifs, c'est simplement parce que les signes distinctifs sont vérifiables, alors que la tviut ein, la reconnaissance globale de l'objet, ne l'est pas. Mais pas parce que, en soi, les signes distinctifs sont une meilleure preuve de propriété que la reconnaissance globale. Quelle était donc la raison pour laquelle, au départ, Rava pensait que Tviut Ain, la reconnaissance globale de l'objet, est moins forte que de savoir donner des signes distinctifs de l'objet? Tosfot répond, la preuve de Rava était que la Tviut Ain qui est demandée pour restituer un objet perdu est particulièrement poussée. On demande que le prétendu propriétaire ait une reconnaissance globale de l'objet qui soit absolument certaine. Et c'est pour ça qu'on ne se fie Kala Tviut Ain du Chacham. En revanche, dans les cas qu'on a énoncés précédemment, dans le DAF précédent, on voit que la Tviut Ain, la reconnaissance globale qui a permis d'attribuer les morceaux de viande ou la pelote de fil bleu azur à ceux qui les avaient perdus, n'est pas une reconnaissance globale qui fait que le propriétaire est absolument certain qu'il s'agit de l'objet qu'il a égaré. Il n'en est pas convaincu de façon absolue, car si c'était le cas, pourquoi serait-il allé demander s'ils peuvent les utiliser, étant donné qu'ils sont certains que c'est les objets qu'ils ont égarés? Ainsi, Rava a appris dans ses enseignements que même une tviut ein, une reconnaissance globale plus faible, dans laquelle on pense reconnaître l'objet, mais on n'en est pas sûr à 100%, a une force équivalente à celle des simanim, des signes distinctifs. Et c'est sur ce genre de tviut ein, de reconnaissance globale qui n'est pas absolue, dont Rava pensait au départ qu'elle est inférieure au simanim, au signe distinctif, et il a appris dans les enseignements de la fin du daf précédent que même cette reconnaissance globale atténuée avait la même force que les simanim, les signes distinctifs. Rava continue son enseignement. Si tu ne dis pas ainsi que la tviut ein, la reconnaissance globale, a la même force que les signes distinctifs, comment un aveugle a-t-il le droit de cohabiter avec sa femme? Ouvne Adam, Ear Mutarin Benchotem, Balaila. Et également, comment tout un chacun peut-il cohabiter avec sa femme la nuit? Quelle certitude ont-ils qu'il s'agit réellement de leur femme? Et là, Betviut Ena Dekala. On doit donc dire que la Tviut Ein, la reconnaissance générale qu'ils ont des Kala, de la voix de leur femme, établit une certitude suffisante pour leur permettre de cohabiter avec elle. Achanami, Betviutena, ici également, dans tous les cas de reconnaissance d'objets, comme nous l'avons vu dans les morceaux de viande ou la pelote de laine bleu azur, la tviut ein, la reconnaissance globale, a la même valeur que la connaissance des signes distinctifs des simanim. Le Rav Shlomo Luria, dans son Sefer Yam Shel Shlomo, rapporte la question de maskil, c'est-à-dire quelqu'un doué d'une intelligence développée, et non dans le sens péjoratif, qui demande si la seule raison pour laquelle la femme d'un aveugle ou la femme de tout un chacun la nuit est permise et la reconnaissance de la voix, qu'en serait-il dans le cas d'un aveugle qui serait également sourd ou de tout homme qui serait sourd? Il n'est pas possible de dire que leur femme leur deviendrait interdite. Le Rav Shlomo Luria répond, lorsque l'homme sait que seule sa femme est dans sa maison, ou pour un aveugle, lorsqu'il la reconnaît par le sens du toucher, il est clair que même dans l'obscurité totale, la femme est permise. Le doute qui est émis par la Gemara est seulement dans le cas où l'homme et sa femme sont en chemin ou dans un endroit où il y a beaucoup de monde. Dans de tels cas, effectivement, le Rav Shlomo Luria dit dans une première réponse que pour un aveugle qui est également sourd, sa femme lui serait interdite avant qu'il n'ait de preuves certaines qu'il s'agit bien d'elle. La Gemara apporte maintenant deux preuves que la tviut ein, la reconnaissance globale, procure une crédibilité même supérieure à celle que peut donner la connaissance de signes distinctifs. Amar Rav Yitzhak Berede Rav Mecharchia, Rav Yitzhak, le fils de Rav Mecharchia, dit « Teda, de ilu atu betre, sache que si deux témoins viennent et disent « Vemre plania de aïsimana ve aïsimana, katan nafsha, lo katlinan le » S'ils disent « Un tel dont voici tel et tel signe distinctif a tué quelqu'un. On ne va pas tuer cet accusé sur ce témoignage. En revanche, s'ils disent c'est lui, on reconnaît cet homme qui a tué quelqu'un, donc par tviut ein, et non pas en donnant des signes distinctifs de l'assassin comme sa taille ou la couleur de ses cheveux, dans ce cas-là, le témoignage a toute sa validité. Et on pourra même condamner à mort l'assassin. Amar Rav Ashi, voici une seconde preuve de la supériorité de Tviut Ein sur Simanim. Teda, de Ilua Marle Inesh Leshloche, Kare Le Plania, de Aïsimana Ve Aïsimana. Rav Ashi nous apporte une preuve tirée non pas d'une halakha, mais du vécu de la vie courante. Sache que si un homme envoie quelqu'un pour aller chercher une tierce personne dont il lui donne des signes distinctifs. Ça fait yadale, ça fait que le yadale. Celui qui est envoyé ne connaît pas la personne, on est en doute de savoir est-ce qu'il va la trouver ou pas grâce aux signes distinctifs qu'il a reçus. Ve ilu it le tviut ena begave, ki chazele yadale. En revanche, si la tviut ein de cette personne, s'il la connaît déjà, même sans connaître de signes distinctifs sur elle, dès qu'il va la voir, il va la reconnaître. C'était une seconde preuve que la tviut ein, la reconnaissance globale, est supérieure à la connaissance de simanim, de signes distinctifs. Le Ran dit dans ses Chidushim que de même que l'on est en droit de récupérer un objet perdu en donnant sur cet objet des signes distinctifs qui prouvent qu'on en est le propriétaire, de même on peut donner des signes distinctifs sur un objet perdu qui appartient à quelqu'un d'autre pour que celui qui a trouvé l'objet puisse le lui restituer. De même que celui qui donne les signes distinctifs dans ce cas-là est cru, car ne tirant pas de profit du fait que la tierce personne récupère son objet, il est supposé dire la vérité. Le Ran dit qu'il sera également cru lorsqu'il vient déclarer qu'il a tviut ein, une reconnaissance générale de cet objet qui appartient à un tiers, même si l'homme qui fait la déclaration n'est pas un talmid chacham. Le Ritva en revanche, dans Gittin, Daf Kaf Zayin, dit que même que lorsque l'on se base sur la tviut ein, la reconnaissance globale du talmid chacham, du sage, pour lui attribuer un objet perdu, même sans qu'il en donne des signes distinctifs, c'est seulement pour attribuer à ce talmid chacham un objet que lui-même a perdu. Mais s'il vient dire que cet objet appartient à quelqu'un d'autre, à ce moment-là, sa parole est une édoute, un témoignage. Et dans un témoignage, on ne croit pas plus un talmid chacham qu'un amaretz, un ignorant. Donc même pour un talmid chacham, le Ritva dit que la reconnaissance globale de l'objet d'un autre ne permettra pas de restituer cet objet. Nous voyons donc une discussion entre les Rishonim en ce qui concerne la validité de la Tviut Ein, la reconnaissance globale d'un objet perdu appartenant à quelqu'un d'autre. celui qui extrait le guide anaché doit l'extraire complètement, c'est-à-dire avec toutes ses ramifications. Nous savons que Stam Mishnah Rabbi Meir, lorsque l'auteur de la Mishnah n'est pas précisé, il s'agit en général de Rabbi Meir. Nous avons effectivement appris plus haut la position de Rabbi Meir, selon qui il faut prélever le guide anaché dans toutes ses ramifications. Rabbi Yuda Omer, Kedel Kayembo, Mitzvat Netila. Selon Rabbi Yuda, nous devons simplement réaliser la mitzvah d'extraire le nerf sciatique en découpant la partie supérieure, mais sans en extraire toutes les ramifications. Alors, Kel Migidanaché Kazait, Sofé Garbaim. Celui qui consomme un volume équivalent à celui d'une olive de nerf sciatique sera sanctionné de la peine de Malkout et recevra donc 40 coups, si toutefois il a consommé ce nerf sciatique devant des Edim, des témoins kshérim. Achlo venbo kazait chayav. S'il a consommé intégralement un nerf sciatique dont le volume était inférieur à celui d'une olive, il sera quand même sanctionné de malkout. Rashi en explique la raison. Le fait qu'il ait ingurgité une créature, une birya, dans son intégralité, ou ici un nerf sciatique dans son ensemble, donne à son acte de manger une importance qui le rend passible de coups. De même que le volume d'un kazaït, de la grosseur d'une olive, donne également à son acte de manger une importance qui le rend sanctionnable. Achal mize kazaït ou mize kazaït, sofeg shmonim. S'il a consommé un kazaït de chacun des deux nerfs sciatiques de l'animal, celui de droite et celui de gauche, il recevra 80 coups, 40 pour chacun des deux kazaïtes. En effet, les Chachamim pensent que l'interdiction de consommer le nerf sciatique est appliquée des deux côtés de l'animal. Rabbi Yuda Omer, Enosofeg et l'Arbaïm. Selon Rabbi Yuda, il ne recevra dans ce cas-là que 40 coups, car pour Rabbi Yuda, l'interdiction de consommer le nerf sciatique n'existe que d'un seul côté, et comme la Gemara l'a établi d'Av Tzadik Aleph à Amud Aleph, la logique de la Torah donne à penser qu'il s'agit du côté droit. Gemara. Bar Piyule, Aveka Ikame de Shmuel. Bar Piyule, qui est le nom d'un Chacham, se trouvait devant Shmuel, Vekamenaker, Atma, et était en train de procéder au Nikur, l'extraction du nerf sciatique, de la Atma, de la hanche. Avec Agaimle, il se contentait de faire un découpage superficiel. Amarle, Chod Betfe. En voyant cela, Shmuel lui dit, coupe davantage, plus profondément, de façon à enlever toutes les branches du nerf sciatique. Ashta lo chaziktecha, svita lei sura. Maintenant, si je ne t'avais vu, tu m'aurais donné à consommer un aliment interdit. Irtat nafal sakinamiyade. Bar Pioulé, en entendant ces mots, a tremblé au point que le couteau lui en est tombé des mains. Amarle lo tirtat, de urelecha, ke rabbi yuda urelecha. Shmuel l'a tranquillisé et lui a dit, tu n'as pas à trembler de la sorte, je ne te prends ni pour un ignorant, ni pour un homme mauvais, qui voulait me donner des aliments interdits à la consommation, mais simplement celui qui t'a appris à faire le nikur, t'a appris selon Rabbi Yuda, alors que Shmuel était pour lui plus exigeant, et demandait que le nikur soit fait selon Rabbi Meir. Amarav Shechet, Maïde Shakal Bar Piyule, de Raïta le Rabbi Yuda. Rav Shechet complète ce fait rapporté par la Gemara en disant que le nerf sciatique qu'a prélevé Bar Piyule était interdit par la Torah d'après Rabbi Yuda. La Gemara demande sur cet enseignement Miklal des Shier des Rabbanan les Rabbi Yuda, est-ce à dire que Bar Piyule a laissé la partie du nerf sciatique qui est interdite seulement par les Chachamim selon Rabbi Yuda? Car telle est la déduction qu'on est en droit de faire des paroles de Rav Shechet. Et là, des Aurélé, Keman Aurélé. À ce moment-là, comment donc Bar Piyule a-t-il appris à faire le Nikur, l'extraction du nerf sciatique? Et comment Shmuel a-t-il pu lui dire, tu as bien appris, alors qu'il en a laissé une partie interdite par les Chachamim, selon Rabbi Yuda? Et là, ma Rav Shechet, la Gemara revient donc sur sa compréhension première de l'enseignement de Rav Shechet, et c'est ainsi qu'il faut l'entendre. Maïde Shakal Bar Piyule, de Oraita le Rabbi Meir, ainsi que corrige le Bar, ומיידי שיער דרבנן לרבי מאיר דהי רבי יהודה אפילו מדי רבנן שרי בר פיולה avait donc enlevé la partie du nerf sciatique qui est interdite selon la Torah d'après Rabbi Meir et avait laissé la partie du nerf sciatique qui est interdite selon les Rabbanan d'après Rabbi Meir également. Et cette dernière partie qui est interdite midi Rabbanan selon Rabbi Meir est permise entièrement d'après Rabbi Yehuda. Bar Pioulé avait fait donc une bonne extraction du nerf sciatique selon Rabbi Yehuda et avait enlevé tout ce qui est interdit, que ce soit Minatora ou Midi Rabbanan. Ainsi, selon Rav Shechet, il y a, d'après Rabbi Yehuda, une partie du nerf sciatique qui est interdite d'après la Torah et une qui est interdite Midi Rabbanan par les Chachamim. Et selon Rabbi Meir, même la partie que Rabbi Yehuda interdit seulement Midi Rabbanan est interdite Minatora pour Rabbi Meir. Et pour Rabbi Meir, il y a aussi une autre partie qui est interdite pour lui Midi Rabbanan, alors que pour Rabbi Yehuda, elle est permise complètement. La halakha, telle qu'elle est retenue dans le Shulchan Aruch Yoreh Dea Siman Samehe Halakha Chet, est la suivante. Il y a deux nerfs sciatiques dans la hanche. Un qui est interne, proche de l'os, et un qui est externe, proche de la chair. Les deux sont interdits et il faut les extraire entièrement. Mais celui qui est interne est interdit Minatora et il s'étend dans toute la hanche et descend dans la cuisse. Le nerf sciatique externe est interdit par les Chachamim. Les branches collatérales qui se détachent le long des deux nerfs sciatiques sont également interdites Midi Rabbanan et il faudra aussi les enlever. Quant aux parties graisseuses qui entourent le nerf sciatique, les Bnei Israël ont pris l'habitude de les considérer comme interdites et de ne pas les consommer. Le Rama ajoute, les bouts de ces collatérales pénètrent dans les extrémités des os, et pour cela, le Menaker, celui qui procède à l'extraction du nerf sciatique, doit briser également l'extrémité des os pour enlever toutes les collatérales. On ne peut apprendre le Nikur, l'extraction du nerf sciatique, simplement par connaissance générale, mais uniquement par une formation détaillée auprès d'un expert connaisseur en la matière.
Sanochel Migidanaché, Amar Shmuel lo asra Torah et la chair la kaf, bilvad. Shmuel dit, la seule partie du nerf sciatique qui est interdite par la Torah est celle qui est située au niveau du kaf, la partie musculaire charnue de l'articulation de la hanche. Bien que le nerf sciatique est beaucoup plus long, et qu'il se ramifie dans la cuisse et dans la patte de l'animal, le issour de la Torah en concerne seulement la partie supérieure au niveau de l'articulation de la hanche, partie désignée par le verset, par le mot kaf, en raison de sa forme arrondie. Comme dit le verset, Alken lo yochlu bnei Israël et gidonashe, asher al kaf ayerer. Ainsi, les enfants d'Israël ne consommeront pas le nerf sciatique situé sur la partie musculaire arrondie de la hanche. Amar Papa Ketnaï. Alors Papa dit, les paroles de Shmuel ne font pas l'unanimité, mais sont l'objet d'une machloket, une discussion entre les Tanaïm. La Gemara va développer cette discussion, dans laquelle nous allons voir que les Chachamim tiennent le din, l'enseignement de Shmuel, alors que Rabbi Yehuda ne le tient pas. Achlo vien bo kazait, chayav. Rabbi Yehuda Omer, achie bo kazait. S'il a consommé un nerf sciatique dans son ensemble, mais que l'ensemble du volume de ce nerf sciatique ne représentait pas le volume d'une olive, les Chachamim, le premier avis de cet enseignement, disent qu'il est chayav, il est passible de malkout. Pour Rabbi Yehuda, en revanche, la sanction ne sera attribuée que lorsque le volume consommé représente un volume de la taille d'une olive. Maïtama de Rabbanan. Pour quelle raison les Chachamim disent qu'il doit y avoir sanction même quand le volume consommé est inférieur à celui d'une olive, biryahi, car il s'agit d'une créature dans son ensemble, ici plus précisément, d'un organe du corps consommé dans son ensemble. Le fait que cette entité soit consommée kebriyato, telle qu'elle a été créée, dans son intégralité, donne à l'acte de manger une importance qui implique que, selon Chachamim, cet acte est trop important pour ne pas être sanctionné. De même, dans toute achila, consommation d'aliments interdits, si la quantité fixée pour que cette consommation soit pénalisée et qu'elle atteigne le volume de la taille d'une olive, c'est également parce que la consommation d'un tel volume est considérée comme un acte de manger important. Consommer une quantité inférieure à celle-ci s'apparenterait plutôt à goûter qu'à manger et ne correspondrait pas au terme « achila » que la Torah sanctionne. Nous tournons la page.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous passons à Daf Tzadik Vav Amud Bet.
Rabbi Yehuda, pourquoi selon Rabbi Yehuda, celui qui a consommé un nerf sciatique dans son intégralité lorsque ce nerf sciatique n'atteint pas le volume de la taille d'une olive, n'est-il pas sanctionné? Achilak Tivabé. La raison de Rabbi Yehuda est que la Torah a exprimé l'interdit de consommation du nerf sciatique en termes de achila, manger. Et, comme on vient de le signaler, l'acte de manger mentionné dans la Torah n'a son importance que s'il s'agit de la consommation au minimum d'un kazaït du volume de la taille d'une olive. Vera banan, ay achila, vechi idbe arba vechamisha zetim, veachal chad kazaït, mechayet. Selon les Chachamim, donc, pourquoi la Torah s'est-elle exprimée en termes de achila? Pour dire que lorsque l'ensemble du nerf sciatique représente un volume de 4 ou 5 kazaït, et que l'on en consomme un seul, on est quand même sanctionné. Pour Chachamim, si la Torah n'avait pas employé un terme de achila, on aurait pensé que seul est sanctionné celui qui a consommé le nerf sciatique dans son ensemble, même si celui-ci dépasse de loin le volume de la taille d'une olive. Le terme de achila employé par la Torah apprend Chachamim que même sur la consommation du volume de la taille d'une olive, on est sanctionné. Mais les Chachamim sont également d'avis que si l'on a consommé l'ensemble du nerf sciatique, même s'il n'atteint pas le volume de la taille d'une olive, on est également sanctionné, car l'acte de manger peut, d'après les Chachamim, revêtir son importance de deux façons, ou bien parce qu'on a consommé un volume important, équivalent au volume de la taille d'une olive, ou bien parce que l'aliment qu'on a consommé est en lui-même important, car il représente une créature dans son intégralité, quand bien même il n'atteint pas le volume de kazaït. Et Rabbi Yehuda, à son tour, d'où apprend-il que si l'on consomme un seul kazaït d'un grand nerf sciatique, on est quand même sanctionné bien que n'ayant pas tout consommé, mais à cher al-kaf ayeret nafka. Du fait que le verset dise que la seule partie qui est interdite du nerf sciatique est celle qui passe au niveau de l'articulation de la hanche, on apprend automatiquement que même si on n'a pas tout consommé, on est quand même sanctionné, car la partie en question ne représente pas l'ensemble du nerf sciatique. Ainsi pour Rabbi Yehuda, le verset de Lo Yochlou, les enfants d'Israël ne mangeront pas de nerf sciatique, reste disponible pour Rabbi Yehuda pour qu'il puisse apprendre que seul est sanctionné celui qui consomme un kazaït, un volume de la taille d'une olive. Et pas moins que cela. Vera banan, pourquoi les Chachamim n'apprennent-ils pas, comme Rabbi Yehuda, du pasouk du verset Asher al-Kafayerer, que l'on est sanctionné sur la consommation d'un kazaït faisant partie d'un nerf sciatique d'un volume plus important? Aou mi baile l'irde Shmuel. De ce verset, les Chachamim apprennent déjà l'enseignement qui a été également cité par Shmuel. De Amar Shmuel, lo asra Torah et l'Asher al-Kafayerer. Car Shmuel a dit, la seule partie du nerf sciatique qui est interdite par la Torah est celle qui est située au niveau de l'articulation de la hanche. Rabbi Yehuda, quant à Rabbi Yehuda, Hayerer Ketiv, découle Hayerer. Comme la Torah précise Hayerer, la cuisse, il faut comprendre que l'interdit de consommation énergétique ne se limite pas au kaf, à l'articulation de la hanche, mais concerne l'ensemble du nerf sciatique qui descend dans la cuisse. Et lorsque la Torah parle de kaf, selon Rabbi Yehuda, c'est pour nous enseigner, comme on l'a dit, que même si quelqu'un ne consomme que la partie située au niveau du kaf Hayerer, de l'articulation de la hanche, il est déjà sanctionné de malkout. Ainsi Rabbi Yehuda apprend du verset Lo Yochlou, les enfants d'Israël ne mangeront pas le nerf sciatique, que la consommation n'en est interdite que si elle équivaut à un volume de la taille d'une olive. Pour les Chachamim, le verset qui dit Kaf Ayerer vient délimiter l'endroit précis qui est concerné par l'interdiction de la Torah de consommer le nerf sciatique. seulement la partie lunaire sciatique située au niveau de l'articulation de la hanche et pas plus. Et du verset de Lo Yochlou, les enfants d'Israël ne consommeront pas de nerf sciatique. Ils apprennent que celui qui consomme un kazaït d'un nerf sciatique d'un volume plus important est sanctionné. Vera Banan, pourquoi selon Rachamim, la Torah a-t-elle précisé Hayerer, la cuisse? Haoud et Pashit Isure, Bekule Yerer. Pour nous apprendre que l'interdit de consommation du nerf sciatique ne concerne que le nerf sciatique qui descend dans la cuisse, à savoir, comme on l'a dit plus haut, le nerf sciatique interne, la fukechitson de l'eau, à l'exclusion du nerf sciatique externe, plus court, qui n'est pas concerné par l'interdiction de consommation du nerf sciatique. Ou leolam, chez Alakaf, mais Chachamim reste sur la position que seule la partie du nerf sciatique située au niveau de l'articulation de la hanche est concernée par l'interdit de la Torah. Nous avons donc établi que les Chachamim pensent comme Shmuel, que seule la consommation de la partie du nerf sciatique située sur le kaf ayerer, l'articulation de la hanche, est sanctionnée par la Torah. Alors que pour Rabbi Yehuda, la Torah sanctionne la consommation d'un kazaït de nerf sciatique, à quelque niveau que ce soit. Et la Gemara pose une question aussi bien sur Chachamim que sur Rabbi Yehuda. Vei kaf, mi baele le maute of, delit le kaf. Chachamim, aussi bien que Rabbi Yehuda, ont tiré des enseignements du mot kaf. Or, nous avons appris au début du Pérec, du chapitre, que le mot kaf, qui sous-entend une partie musculaire arrondie, exclut de l'interdiction du nerf sciatique l'oiseau, qui ne possède pas une telle masse musculaire charnue et arrondie, alors, au niveau de la hanche. La Gemara répond, très kaf ktivé. Dans le pasouk de Bereshit, chapitre Lamed Bet, pasouk Lamed Gimel, le mot kaf est mentionné deux fois. Alken lo yochlu bene Israël et gidanashe asher al kaf ayarer, abeyomaze, kinaga be kaf yarer Yaakov be gidanashe. L'un des deux mots kaf nous sert à exclure l'oiseau de l'interdiction du nerf sciatique, car l'oiseau ne possède pas de kaf. Et l'autre mot kaf nous apprend, selon Chachamim, que seule la partie du nerf sciatique qui est située sur le kaf, sur l'articulation de la hanche, est interdite par la Torah, et pas le reste du nerf sciatique. Et selon Rabbi Yehuda, ce second mot kaf nous apprend que lorsque quelqu'un mange un kazaït d'un guidanaché d'un volume plus important, bien qu'il n'ait pas mangé l'ensemble de ce nerf sciatique, mais seulement par exemple la partie du nerf sciatique qui est située au niveau du kaf, cet homme est quand même sanctionnable. En résumé, celui qui consomme un nerf sciatique entier dont le volume est inférieur à celui d'un kazaït, volume de la taille d'une olive, selon les Chachamim, il est sanctionnable car il s'agit d'une birya, d'un organe dans son intégralité, et d'après Rabbi Yehuda, la Torah a insisté sur le fait qu'elle ne sanctionne que la achila, la consommation, et une consommation n'est considérée en tant que telle pour être sanctionnée par la Torah que si elle représente une quantité minimale d'un kazaït. Tosfot demande à propos du chidouche, de la nouveauté, de l'importance donnée par la consommation d'une birya, d'une créature ou d'un organe dans son intégralité. Dans le reste des interdits alimentaires de la Torah, l'élément qui donne l'importance à la consommation au point qu'elle soit sanctionnable est la quantité ingérée. Le volume d'un kazaït, équivalent à la taille d'une olive, que l'on a déjà mentionné. En revanche, l'importance donnée à la consommation par le fait qu'il s'agisse d'une birya, ne se retrouve que dans trois cas. Le guidanaché, le nerf sciatique dont nous avons déjà parlé. Nous le trouvons également dans le cas de Ever Minachai, la consommation d'un membre d'un animal vivant, où nous apprenons que si quelqu'un mange un petit oiseau vivant entier, même si son volume est inférieur à celui d'un kazaït, le consommateur sera sanctionné. Et également, dans le cas de Sheretz Tamé, les insectes ou les reptiles interdits. Là également, il y aura sanction, même dans le cas où le volume de cet insecte est inférieur à un kazaït. Mais dans tous les autres interdits alimentaires, comme par exemple Orla, Kilaïm, Tevel, qui concernent par exemple les fruits d'Eretz Israël, et qui ne sont pas d'une importance moindre, le seul élément qui rend la consommation sanctionnable est la quantité. Mais celui qui aurait consommé un fruit interdit intégralement, ou même le cadavre d'un animal mort sans abattage rituel intégralement, si celui-ci est inférieur au volume de la taille d'une olive, il ne serait pas sanctionnable tant qu'il n'atteint pas la quantité d'un kazaït. Faisons une parenthèse pour une mise au point importante. La consommation d'une quantité même minime d'un aliment non cachère est interdite, même si elle n'est pas sanctionnée de malkout, des 40 coups. Lorsque nous parlons ici du volume de la taille d'une olive, c'est que dépasser ce volume, la consommation est même sanctionnée de malkout. Tosfot demande pourquoi l'importance de birya, de la consommation d'un élément dans son intégralité, n'est retenue que dans ces trois cas précis et pas dans le reste des interdits alimentaires. Tosfot répond que la différence réside dans le mode d'expression que la Torah a choisi pour désigner les différents interdits. En ce qui concerne les trois interdits en question, la Torah a dit « Ne mangez pas le gui d'anaché, le nerf sciatique, ne consommez pas de rampant ou d'animal vivant », en désignant non pas une catégorie d'aliments, mais un élément, une entité à ne pas consommer. Dans tous les autres issurim interdits, la Torah ne désigne pas l'élément, l'objet à ne pas consommer, mais interdit de consommer la catégorie et désigne le nom de l'interdit dans son ensemble. Comme par exemple Orla, Tevel, Nevela, et non pas la grappe de raisin Orla ou l'épi de blé de Tevel. C'est pour cela que dans les autres cas, le seul critère qui fixera la sanction sera le volume consommé et non pas l'élément dans son ensemble. Nous commençons la nouvelle Mishnah. Yerer shenit bashelba gidanashe. Si l'on a fait cuire volontairement ou pas, dans une marmite, un yerer, la hanche et la cuisse de l'animal, sans en avoir extrait le guidanaché, le nerf sciatique. Il y a donc mélange d'aliments permis et interdits. Im yeshva benotentam, arezu asura. Si la quantité de nerf sciatique est suffisamment importante pour avoir donné du goût au reste de la viande sera elle-même interdite. Ketsad, comment peut-on se rendre compte de cela? Mais charinota ke basar belefet. On va en faire l'évaluation comme s'il s'agissait de viande cuite avec des navets. En effet, les aliments ne donnent pas tous du goût dans la même proportion, et nous possédons une halakha le Moshe Missinaï, une loi transmise rigoureusement depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à nous, que pour évaluer la quantité de issour d'aliments interdits pouvant donner du goût au éther, à l'aliment permis, nous allons considérer le issour, l'interdit, comme s'il était de la viande, et le éther, le permis, comme s'il était du léfet, du navet. Et dans la même proportion que la viande donne du goût au navet, lorsqu'on les cuit ensemble, on évaluera la transmission de goût du nerf sciatique dans la viande de la cuisse. Donc si à la place du yerer, de la cuisse, il y avait des navets, et qu'à la place du nerf sciatique, il y avait de la viande, et qu'en les faisant cuire ensemble, les navets prendraient le goût de la viande, on dira que de même, la viande de la cuisse a pris le goût du nerf sciatique, et elle est donc interdite. Dans le cas contraire, elle sera permise. Nous continuons la Mishnah. Gidanaché shenit bashel imagidim. Si l'on a cuit un nerf sciatique avec d'autres nerfs ou tendons qui sont de même consistance, mais qui eux étaient permis. Bisman shemakiro benotentam. S'il reconnaît le nerf sciatique, il l'enlèvera, le jettera. Et pour les autres nerfs ou tendons, il faudra effectuer le même calcul pour savoir si le nerf sciatique était en quantité telle qu'il aurait pu donner du goût ou pas. Vimlav kulanasuri. Dans le cas où le nerf sciatique n'est pas reconnaissable, tous les nerfs seront interdits, non pas à cause du goût qui a été transmis, mais car peut-être que le nerf qu'on va consommer est le nerf sciatique. La Gemara expliquera pourquoi, n'étant pas reconnaissable, le nerf sciatique n'est-il pas considéré comme annulé dans l'ensemble. Verotev benotentam. En ce qui concerne la sauce ou le bouillon, dans les deux cas de la Mishnah, on calculera s'il est en proportion telle qu'il a reçu du goût, par l'interdit, ou pas. Vechen chaticha shel nevela, vechen chaticha shel dagtame, shenit bashla ima chatichot. De même en ce qui concerne un morceau d'animal nevela, mort sans abattage rituel, ou de poisson non kasher, qui ont été cuits respectivement dans des marmites contenant d'autres morceaux de viande ou de poisson. Bisman shemakiran benotentam. Si on est capable de reconnaître le morceau interdit, on l'enlèvera et on calculera si proportionnellement le reste a pu recevoir du goût de l'interdit. Veimlav kulanasurot. Si on ne peut pas le reconnaître, tous les morceaux seront interdits, car chaque morceau est peut-être celui de nevela ou de poisson non kasher. Verotev benotentam. Et quant à la sauce ou au bouillon, on calculera si de par sa proportion par rapport à l'aliment interdit, il a pu en recevoir du goût ou pas. Gemara. Amar Shmuel, lo shanu elashenit bashelba, aval nitzleba, kolef veochel achemagia legid. Shmuel dit, l'enseignement qui est donné par la Mishnah ne concerne que le cas où la cuisse contenant le nerf sciatique a été cuite dans une marmite. Mais si elle a été grillée au feu, il pourra découper des lamelles de viande et les consommer jusqu'à ce qu'il arrive au nerf sciatique. Selon Shmuel, lorsqu'on grille de la viande au feu, le nerf sciatique ne répandra pas son goût dans le reste de la viande. Contrairement à la cuisson dans un liquide dont parle notre Mishnah, dans laquelle le goût se répand dans le reste de la viande. En effet, lorsqu'on grille la viande, il y a un phénomène de contraction et le goût du nerf sciatique ne se répand pas. Contrairement à la cuisson, ou par l'intermédiaire du liquide de cuisson, le goût se transmet davantage. Eni, veha amar ravuna. La Gemara pose une question sur l'enseignement de Shmuel à partir d'un enseignement de Ravuna. Gedi shetzlao bechelbo, asur lechol afilu miroshozno. Si l'on a fait griller un chevreau et que l'on a oublié d'en prélever le chelev, la graisse interdite qui recouvre les reins, il sera interdit d'en consommer même l'extrémité de l'oreille, l'endroit le plus éloigné du chelev, de la graisse interdite. Il s'agit pourtant d'une grillade et on voit que le goût a été transmis à l'ensemble de l'animal. La Gemara répond en haut du daf Tzadik Zayin Amud Aleph.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud ainsi que le daf Ayomi quotidiennement en vidéo.